Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles ? Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoires. Eh bien, bonjour. Nous allons retrouver nos Indiens des plaines. Et cette semaine, je vais commencer par vous parler de Red Cloud, Nuage Rouge, certainement un des plus grands chefs de la tribu Sioux. Pour avoir en définitive négocié avec les Blancs, Red Cloud fut jugé plus sévèrement encore par les gens de sa tribu. Il aurait dû en être tout autrement, car c'était un homme courageux et sans doute le plus grand stratège des Sioux. Les Blancs déclenchèrent contre lui une campagne militaire particulière. La guerre de Red Cloud. Durant ces opérations, il fut l'auteur d'un triomphe des Sioux connu sous le nom de Massacre de Fetterman. En 1863, Red Cloud commençait à devenir l'un des meilleurs chefs. C'était au temps où les colons et les mineurs s'engouffraient le long d'une nouvelle route appelée la piste de la Power, ou la piste de Buzzerman, du nom de l'éclaireur qui l'avait ouverte. Et cette piste était destinée à rejoindre les mines et s'aimer autour de Virginia, dans le Montana. Cette nouvelle piste, un embranchement de celle de l'Oregon, quittait la vieille route du territoire du Lakota et piquait vers le nord-ouest à travers les meilleurs terrains de chasse appartenant aux Sioux. Sous la conduite de Red Cloud, les Indiens harcelaient les voyageurs empruntant ce trajet. Leur détermination était telle qu'au cours de l'été 1866, les chefs blancs mirent sur pied un conseil à Fort Laramie. À ce conseil de la paix se rendirent Red Cloud et certaines personnalités Sioux comme Red Leaf, feuille rouge, All Man Afraid of His Horse, vieil homme effrayé par ses chevaux, et Spotted Tie, queue tachetée, accompagnés par certains membres de leur bande. Au début du conseil, un emploi pacifique de la piste de Buzzerman semblait négociable, à condition toutefois que les colons ne massacrent pas le gibier. Alors qu'on passait aux choses sérieuses, le colonel Henry Carrington arriva au fort avec un gros contingent et des plans pour implanter divers bastions destinés à protéger la piste contre les attaques des Indiens. Carrington assista aux sessions du conseil et ne cacha pas ses intentions. Red Cloud laissa alors exploser son mécontentement. La commission de la paix a traité les chefs indiens en enfants, annonça-t-il. Le grand-père nous envoie des présents et il désire que nous lui vendions la route. Mais avant même que les Indiens aient pu dire oui ou non, le chef blanc a fait intervenir ses soldats pour nous voler la route. Et sur ces mots, il quitta la séance et la moitié des chefs le suivirent. Les négociations se poursuivirent avec Spotted Tail et quelques autres chefs. On signa un traité. Carrington accéléra les travaux de reconstruction du Fort Greneau et implanta le Fort Phil Kearny ainsi que le Fort Smith afin de protéger la piste traversant le domaine des Sioux. Peu après l'arrivée de Carrington et de ses troupes au Fort Greneau, les guerriers Sioux effectuèrent une razzia contre cette position et disparurent avec un certain nombre de chevaux. La guerre de Red Cloud débutait. Les Indiens commencèrent par harceler sans cesse l'ennemi. Comme ils l'avaient fait à Denver 4 ans plus tôt, les Indiens coupèrent les routes principales, attaquèrent les convois, détruisant les chariots et les obligeant à faire demi-tour, et ils s'en prenaient aussi aux petits groupes de soldats qui sortaient des forts pour ramasser du fourrage ou du bois. Les campements des factions Sioux qui menaient la guerre étaient essaimés le long de la Tongue, et sous la conduite de Red Cloud, les infatigables guerriers s'élançaient contre la piste et les postes. Un certain William J. Fetterman se trouvait cantonné au fort Phil Kearny, quartier général des forces de Carrington. Ce jeune capitaine à la forte tête avait été exaspéré par les razzias. Il n'avait aucune estime pour l'aptitude à combattre des Indiens des plaines, et le fait qu'il puisse se tirer sans encombre de ses coups de main le faisait rager. À la suite d'une attaque, il se vanta même en ces termes. « Donnez-moi 80 cavaliers, et je leur ferai traverser tout le territoire Sioux !» Déjà, quelques guerriers Sioux tiraient des plans pour profiter de l'attitude de bravache du capitaine et marquer un avantage définitif. Le fort Phil Kearny était niché sur un plateau à la fourche que formaient Little Pine Creek et Bill Pine Creek. De tous les côtés, les crêtes et des collines entouraient cette position. Ses hauteurs étaient déboisées et couvertes d'herbes desséchées par le soleil. En hiver, des plaques de neige recouvraient le sol, mais les replis du terrain étaient tapissés de merisiers de Virginie et autres broussailles. La piste de Bozeman passait au nord-ouest du fort et s'engageait dans la longue ascension d'une colline connue sous le nom de Lodge Trail Ridge. Le 21 décembre 1866, au matin, un détachement de soldats, envoyé en quête de bois de chauffage et de grumes, avançait le long de la Big Pine Creek. Vers 11 heures du matin, une vigie du fort, juchée sur une colline, agita un pavillon signalant que le détachement était l'objet d'une attaque et aurait peut-être besoin de renfort. Le capitaine Fetterman demanda immédiatement le commandement de ce groupe de secours et satisfaction lui fut accordée. Ses ordres prévoyaient qu'il ne devait pas engager le combat inutile et qu'il ne s'aventurerait en aucun cas au-delà de la crête. Il s'apprêtait à quitter le fort avec sous ses ordres 78 cavaliers et fantassins, mais à la dernière minute, deux civils se joignirent à son détachement, ce qui portait à 80 le nombre des hommes dont il disposait. Le chiffre exact qu'il avait avancé le jour où il prétendait pouvoir traverser à cheval tout le domaine des Sioux. Le destin, en quelque sorte, lui rappelait sa redondance. L'attaque contre le détachement chargé de la corvée de bois ne fut pas déclenchée par une masse d'Indiens, mais par une bande réduite dirigée par un brillant et jeune guerrier du nom de Crazy Horse, qui s'était approché des défenses du fort. Crazy Horse arborait dans sa chevelure une dépouille de faucon et sur sa joue les zigzags de l'éclair et les marques rouges de la grêle qui caractérisaient sa peinture de guerre figuraient sur son corps recouvert d'une couverture qu'il portait sanglée autour des reins à cause du froid. Il était à cheval, comme d'ailleurs quelques autres guerriers de son petit groupe. Le reste marchait à pied. Ils se déplaçaient en bordure de la broussaille en faisant semblant de se cacher, mais en réalité, ils se préparaient à exécuter une attaque selon une des tactiques les plus simples qui avaient jamais été mises au point. Les obusiers du fort firent éclater deux boîtes à mitraille au-dessus de la tête des Indiens. Un de ceux qui se trouvait à l'avant tomba de son cheval. Les autres hurlèrent et se replièrent en direction du nord, comme s'ils étaient en proie à l'épouvante. Aussi maladroitement que possible, Crazy Horse couvrit la retraite de ses compagnons. Alors que le détachement chargé de la corvée de bois était déjà rentré sans encombre au fort, le capitaine Fetterman s'élança à la poursuite du petit groupe d'Indiens. Crazy Horse et les autres guerriers montés se tenaient hors de portée des carabines des soldats blancs tout en laissant un cavalier indien chargé de temps à autre comme pour retarder le détachement ennemi. Sans doute, Crazy Horse suppliait-il ses compagnons de hâter le repli. Il entraînait ses poursuivants dans les collines à travers la Big Penny Creek et à l'assaut de la crête de Lodge Trail. Hâtez-vous ! Hâtez-vous ! Disait-il à ses hommes. À un moment, il sauta de cheval comme s'il voulait resserrer la sangle de guerre de sa monture, et une autre fois, il s'arrêta comme pour enlever avec frénésie un caillou fiché dans le sabot du poney. Durant ce temps, les éclaireurs indiens s'étaient couchés sur le ventre le long du ravin. Ils attendaient l'instant de signaler à la force principale des cavaliers cachés derrière la colline à quel moment il serait temps de passer à l'action. Avec constance, Crazy Horse entraînait les soldats blancs au-dessus de la crête de Lodge Trail en suivant la piste réservée aux chariots vers la bifurcation de Pano Creek. Soudain, il poussa son cri de guerre. Loin du fort et hors de portée des obusiers, le détachement de Fetterman se trouva brusquement submergé par des centaines d'Indiens et leurs clameurs guerrières. Les hommes s'éparpillèrent comme une volée de cailles. Ils essayaient de se regrouper, d'échapper à l'ennemi, de se mettre en formation de tir. Brandissant leurs casse-têtes, les guerriers indiens chargeaient à travers leurs rangs et il en venait de toutes les directions. Quelques Indiens tombèrent sous les balles qui crépitaient, mais la masse des agresseurs continuait à grossir. Une pluie de flèches s'abattait sur les soldats. Alors que les chevaux étaient morts et avaient pris la fuite, Fetterman et ceux qui restaient de ses hommes battirent en retraite et se réfugièrent sur un tertre au voisinage de la piste de Buzzerman, une hauteur jalonnée de quelques roches plates qui offraient une piètre protection. Sur cette position, ils luttèrent jusqu'au bout. Le capitaine était sorti du fort quelques minutes après 11 heures. Vers 12h45, la mort l'avait saisi, ainsi que ses 80 compagnons. Ils furent dépouillés de leurs fusils et de leurs vêtements et scalpés. Le massacre de Fetterman ne pouvait être considéré comme un engagement majeur. Mais l'événement marquait un véritable point d'interrogation dans cette guerre de harcèlement que déclenchait Red Cloud et qui allait durer pendant des mois. Comme Sand Creek, le massacre du détachement de Fetterman soulignait le sinistre échec de la politique indienne du gouvernement. L'incident obligea nombre de personnes à revoir leur attitude belliqueuse. Tant à l'ouest qu'à l'est, les Blancs souhaitaient la paix. Red Cloud refusait de la leur accorder. Le chef Sioux se montrait intraitable et demandait que tous les postes militaires fussent retirés de son domaine. En fin de compte, le gouvernement des États-Unis céda. En mai 1868, les autorités militaires ordonnèrent l'abandon des forts Reno, Phil Kearny et C.F. Smith. À la fin de l'été de la même année, au moment où les garnisons quittèrent ces positions militaires, les Indiens les détruisirent par le feu au ras des fondations. En novembre, Red Cloud se rendit à Laramie pour y signer un traité de paix. Il était le premier chef indien de l'Ouest, et le dernier d'ailleurs, à avoir remporté la victoire dans une longue guerre menée contre les États-Unis. Peu de temps après la signature de ce traité, un voyageur qui conversait avec Red Cloud s'étonna de ce que le gouvernement eût cédé. Aux yeux du chef, l'explication était simple. « J'ai plus de soldats que le grand-père, et il ne peut s'emparer de mes terres contre mon gré. » L'armée américaine comptait évidemment plus de soldats que n'en avait Red Cloud. En réalité, dans tous les domaines, le gouvernement possédait davantage de biens. D'ailleurs, ce fait, Red Cloud et ses frères allaient bientôt l'apprendre à leurs dépens. Les plaines du Nord connaissaient encore des jours troublés. Des désaccords surgissaient sur le point de savoir à quel point précis les négociants pouvaient venir traiter avec les Sioux et en quel lieu la tribu devait se rendre pour collecter ses redevances annuelles. En conséquence, au cours du printemps 1870, 16 chefs, dont Red Cloud, furent ostensiblement invités à Washington pour y tenir une conférence. Dans la capitale, ces Indiens, comme bien d'autres avant eux, eurent un aperçu du monde des Blancs et de sa force. Red Cloud fut admirable et il sut cacher ses impressions. On lui fit visiter l'arsenal fédéral et des chantiers navals. On lui montra un canon Rodman de 15 pouces dont l'arme était presque aussi grosse pour qu'un homme pût s'y glisser. Il eut l'occasion d'assister à une séance du Sénat. Il la compara sans doute avec les conseils tenus par les Indiens. Du haut du dôme du Capitole, il contempla la ville et dut penser aux chiffres, les nombres comparés des Blancs et des Sioux. Par deux fois, il rencontra le président Grant. Il était probablement dans les intentions de Red Cloud de dire aux Blancs une fois pour toutes qu'il ne pouvait contrôler le destin des Sioux. En discutant des clauses du traité qu'il avait signé moins de 2 ans plus tôt, il avait cherché à défendre ce point de vue. Il pensait que les stipulations d'un traité n'avaient guère d'importance et que, sous sa direction, les Sioux seraient en mesure d'interpréter ces clauses selon leur bon vouloir. À présent, et en dépit de l'évidente puissance des Blancs, il demandait l'abandon d'une nouvelle position américaine dans les plaines du Nord. En outre, il souhaitait que l'on dédommageât son peuple pour le passage de la voie ferrée sur ses terres. Il insistait pour qu'on permît aux Indiens de continuer à vivre en toute liberté sans que des frontières arbitraires limitent leur domaine. En parlant au secrétaire d'État, à l'intérieur et au commissaire aux affaires indiennes, il émit une série de revendications et une suite d'accusations contre l'action des Blancs. Il termina toutefois son discours acrimonieux en admettant que, comparé à la nation américaine, son peuple ne rassemblait qu'une poignée d'individus. une simplicité et une éloquence tout indienne que peu de personnes pouvaient se flatter d'égaler, marquait ses propos. Notre nation fond comme la neige située sur le versant ensoleillé des collines. Alors que notre peuple est pareil à l'herbe printanière promise à l'été. En dépit du découragement manifesté par Red Cloud, les officiels de Washington sentirent que le chef des Sioux était encore très contrarié. En conséquence, ils s'entendirent avec divers chefs religieux et avec les tenants des idées humanitaires pour que l'Indien puisse s'adresser à un auditoire de New York où un courant de sentiments en faveur des Indiens grossissait de jour en jour. Une réception favorable ne changerait-elle pas son état d'esprit ? Avec réticence, Red Cloud donna son accord. Un grand rassemblement eut donc lieu pour lui à l'Institut Cooper et son discours fut le point culminant de la session. Il sentit la chaleur de l'auditoire et parla de la fraternité humaine sous le signe du grand esprit, des torts faits aux Indiens et du besoin qu'avaient ceux-ci d'être aidés et compris. On applaudissait à chaque phrase qui tombait de ses lèvres. Il vivait là ses plus beaux instants. Les idéalistes qui l'avaient accueilli de la sorte dans la plus grande ville américaine avaient mis sur pied un comité dont le but était d'établir un plan de règlement de toutes nos difficultés indiennes. Ils n'exposèrent pas leurs mesures par le détail devant Red Cloud et les autres chefs indiens. S'ils l'avaient fait, les Indiens n'auraient sans doute pas trouvé dans leurs propos un grand réconfort, ni beaucoup d'encouragement. Entre autres stipulations, ce schéma prévoyait que tous les Indiens de l'Ouest se trouveraient concentrés dans des réserves, dont le nombre devait varier entre 4 au moins et 7 au plus. Chaque Indien disposerait de 32 hectares de bonne terre et le processus de la civilisation des Indiens serait immédiatement mis en marche. Ce plan, qui avait de bonnes intentions, montrait une fois de plus que, pour la plupart, réformateurs et idéalistes, avaient des perspectives aussi limitées que celles d'une buse. Tant de tribus de l'Ouest, dans un nombre aussi réduit de réserves, auraient inévitablement entraîné des désordres et des frustrations. La terre, dans la majeure partie de cette région, était si aride que les 32 hectares par personne n'auraient su nourrir une population ne disposant que des instruments agricoles de l'époque. Détail particulièrement important, les Indiens ne tenaient absolument pas à ce qu'on les civilisât, ou du moins à accepter les valeurs prônées par les Blancs. Dès leur retour vers l'Ouest, Red Cloud et les autres chefs quittèrent le train à Omaha et reçurent en cadeau des chevaux. Le changement du grand chef était irréversible. Il n'allait plus jamais mener les siens à la guerre. 7 fois de suite, il se rendit à Washington et il continua à œuvrer de son mieux dans les négociations pour défendre les droits des Sioux. Mais il avait perdu toute confiance dans sa propre supériorité et dans celle de ses guerriers. Son pouvoir de meneur des Indiens se dégradait aussi. L'influence qu'avaient eue en définitive les idées humanitaires de l'Est sur le sort des tribus de l'Ouest est difficile à préciser. Incontestablement, elles eurent quelques effets positifs. Sans leur structure pleine d'idéal, les propositions d'extermination des derniers Indiens libres et belliqueux auraient sans doute été mises à exécution. Cependant, il était clair que ces humanitaires ne comprenaient pas toutes les réalités des Indiens des plaines. Les Sioux faisaient partie d'une nation fière et conquérante. Existait-il un guerrier pour suivre une charrue ou s'adonner à des tâches féminines sous prétexte que le blanc l'avait décrété? Quel chercheur d'or laisserait des sauvages se dresser sur la route de la fortune? La rumeur publique assurait qu'il y avait beaucoup d'or dans les Black Hills, au milieu du territoire du Dakota, la terre natale des Sioux. En 1874, George Custer, celui-là même qui avait dirigé le massacre de la Ouachita, fut dépêché sur les lieux à la tête d'une forte expédition pour examiner les possibilités minières de la région qui comprenait, entre autres, de verdoyantes vallées. Custer reconnut l'existence de filons d'or et immédiatement, les prospecteurs se ruèrent sur le dernier baston des Sioux. Le gouvernement fédéral offrit d'acheter ces terres, mais les Indiens refusèrent. Red Cloud était prêt à négocier, mais d'autres chefs s'y refusaient. Parmi les opposants, citons Gall, le chef de guerre, et Sitting Bull, bison assis. Un homme médecine. Par-dessus tout, il y avait ce chef de guerre Oglala, encore jeune, mais nanti d'un pouvoir étrange, traditionnel et magique sur tout ce qui se rapportait à la guerre. Ce nouveau venu se nommait Crazy Horse et menaçait déjà la suprématie de Red Cloud. Custer, Sitting Bull, la bataille de Little Bighorn. Pendant près d'un siècle, ces noms ont résonné dans la conscience des Américains. L'histoire que nous connaissons est fondée sur des malentendus et des mythes. L'engagement de Little Bighorn ne fut pas une embuscade indienne, mais résultat d'une attaque des Blancs contre les positions Sioux. Sitting Bull, ce jour-là, ne prit pas part au combat. Le triomphateur indien fut un brillant stratège doublé d'un bon guerrier du nom de Crazy Horse. Il n'appela pas à cet engagement Little Bighorn. Pour lui, il s'agissait du combat de la Crazy Grass, une rivière de la région. Personne ne sait au juste quelles furent les pensées de Crazy Horse durant la bataille. Ce sont les Blancs qui ont écrit les livres d'histoire. Mais grâce aux événements qui nous sont connus, il est tentant et peut-être même licite de reconstruire cette glorieuse journée indienne si décisive telle que l'a vue sans doute le plus vénéré des combattants Sioux. Il avait tout juste franchi la trentaine, ce qui était plutôt jeune pour un vieux chef. Il ne dépassait pas 1m73, était plus mince que la plupart de ses congénères indiens, mais possédait un corps bien musclé et souple. Son expression était tranquille et pleine de dignité, un peu mélancolique toutefois. Quant au conseil, il se leva pour prendre congé. Ses compagnons marquèrent un temps d'arrêt au cas où il aurait encore quelque chose à ajouter. mais tout avait été dit. Parmi les plus âgés, certains étaient enclins à poursuivre la discussion, mais les chefs de guerre ne s'attardèrent guère après son départ. Sur un léger plongeon du buste, il franchit la portière de l'immense tipi et regagna le campement de sa propre tribu, celle des Sioux Oglada. On était au milieu du jour, et il faisait chaud, malgré les légers nuages qui s'attardaient dans les cieux. S'il montait sur les hauteurs en bordure de la vallée, il verrait loin, en direction du sud, et apercevrait les pics enneigés de la chaîne de Bighorn, couronnée d'un amoncellement de nuages. La vallée se marbrait de taches d'ombre et de lumière, lieu idéal et somptueux en ce début de juin, mois où, selon les Indiens, la lune fait grossir les moissons. Ourlée par endroits de hautes futaies, la Grassy Grass sinuait à l'est de la vallée et les pluies printanières s'ajoutant à la fonte des neiges avaient fait monter ses eaux. Au gué, un cavalier n'enfonçait que jusqu'au talon, et les gens aimaient se baigner et nager dans ces eaux fraîches. La courbe concave des méandres présentait de hautes berges abruptes, et à certains endroits, ses rives offraient une terre brune et nue, alors qu'à d'autres, elle était recouverte de vignes vierges d'un rose tendre. Sur le sol gris des collines, les yuccas fleurissaient, leurs tiges alourdies de pétales d'un blanc verdâtre. Ça et là, des taches de fleurs bleutées indiquaient aux indiennes les lieux où elles déterraient les haricots et les masses, ces navets des prairies. Les cercles que formaient les campements s'inséraient dans ce paysage paisible. Un coup d'œil panoramique permettait de découvrir au moins 6 camps de Sioux aux dimensions variables et un de Cheyenne. Ensemble, ces camps s'étendaient sur près de 5 km en avant et en aval. Outre ces tentes, on dénombrait de multiples abris couverts de branches de saules et de broussailles, ainsi que les habitations des guerriers indépendants dispersés le long du cours de la rivière. Bon nombre d'entre eux s'étaient rendus sur ces lieux en se flanfiant à leur chef et à leur vieille croyance selon laquelle la bravoure et l'habileté dans la guerre étaient l'unique réponse à faire aux Blancs. Dans le camp des Sioux brûlés, un crieur achevait sa ronde en répétant les ordres du Grand Conseil. « Envoyez chercher les femmes qui sont au travail et creusent le sol sur les collines. » Elles doivent réintégrer leurs tentes. Que l'on rameute dans le cercle du camp tous les troupeaux de chevaux actuellement au pâturage. Que les femmes soient prêtes à démonter rapidement le camp, mais qu'elles conservent leur calme. Une protection sera assurée à tous. Guerriers, préparez-vous à vous battre. Le campement était trop énorme, trop vaste pour rester plusieurs jours de suite au même endroit, car les poneys, en très grand nombre, rasaient rapidement l'herbe. Mais qu'ils fussent aussi nombreux était une bonne chose. Les Washishu, ce terme désigne les hommes blancs aux Sioux, pouvaient survenir d'un jour à l'autre. Les éclaireurs n'en avaient-ils pas repéré environ 650 qui chevauchaient à une demi-journée de marche? Ils franchissaient la ligne de partage des eaux et venaient de Rosebone Creek. Bien des chefs pensaient qu'il s'agissait d'une simple colonne de reconnaissance lancée en force, mais personne ne pouvait savoir quelles étaient les pensées profondes du chef de guerre des Washishu. Les tuniques bleues étaient peut-être les cavaliers appartenant à ce que les Blancs appelaient le 7e régiment et que conduisait Longcheveux, surnom de Custer, l'homme qui avait protégé les constructeurs de la voie ferrée le long de la Yellowstone qui avait envahi les Black Hills et amené dans son sillage les chasseurs d'or. Avec ses hommes, il avait tué Black Kettle, le chef Cheyenne, là-bas, dans le sud, sur les bords de la Ouachita. S'il survenait à présent, avant que les bandes ne soient obligées de se séparer, les lieux et les heures seraient propices à une rencontre ici, sur les bords de la Grazy Grass, ce cours d'eau que les Crows, ses ennemis honnis depuis longtemps, et qui s'étaient parfois ralliés aux Ouachichous, appelaient la Little Big Hope. Dans le large cercle du campement des Oglala, on avait rentré la plupart des chevaux, et de loin, les jeunes garçons les surveillaient. Le destrier de Crazy Horse, un cheval pie taché de jaune, un de ses deux meilleurs chevaux de bataille, était scellé et attaché à un arbre près de sa tente. Crazy Horse se plongea par la portière de son tipi et, écarquillant les yeux, contempla dans la demi-obscurité Black Saw, son épouse, et la vieille parente qui partageait leur tente. Son épouse était une brave femme qui lui avait donné une fille voici quelques années. Cet enfant vécut juste le temps de rire, de danser, de parler. Ensuite, elle avait attrapé ce que les Blancs appellent la coqueluche et était morte. Le chagrin avait d'autant plus rapproché Crazy Horse et Black Slug. Sans un mot, le guerrier saisit le ballot ressemblant ses affaires de guerre. Il se débarrassa de sa chemise en daim et de ses jambières, puis, ne conservant que sa bande culotte, il s'agenouilla sur une peau de bison. Il défit le paquet et, en évoquant les nombreuses vies humaines perdues tout au long de l'année, il étala ses peintures de guerre. Les combats avaient commencé dès le printemps, voici près de trois lunaisons, alors que le froid sévissait encore sur les plaines du Nord. Après avoir donné à tous les Indiens l'ordre insensé et arrogant de gagner les réserves en plein hiver, les Blancs avaient attaqué de nuit un campement de Sioux et de Cheyennes installé sur les bords de la Power. Voici 8 jours seulement, Crazy Horse avait mené une attaque contre une autre colonne américaine qui cherchait les Indiens dans les parages de Rosebud Creek. Au terme d'une journée de bataille, les soldats blancs avaient fait demi-tour. Les Indiens se sentaient très forts. Tandis qu'il achevait de se préparer, Crazy Horse se souvint du rêve de Sitting Bull. Ce printemps-là, au cours de la danse du soleil, le grand homme médecine avait fait l'offrande d'un pénible sacrifice. On préleva sur chacun de ses bras 50 morceaux de chair. Puis, fixant le soleil, il dansa pendant 48 heures jusqu'à ce qu'il en perdût connaissance. À son réveil, il parla de sa vision. Un grand nombre de soldats allaient submerger le camp. Peut-être ce rêve allait-il s'accomplir à présent? Crazy Horse peignit un éclair en travers de sa joue et des marques de grêle sur son corps. Il épingla dans sa chevelure la dépouille de faucon. Il sortit, tira de la marmite un morceau de viande bouillie et commença à manger. Les chefs et sous-chefs des Sioux Oglala s'approchèrent de lui pour lui parler. Il leur rappela que si les Ouachichous engageaient la bataille, ils ne se battraient pas comme des Indiens. Leur but était de conquérir et de tuer. Les Indiens devaient donc combattre de la même façon. Compter les coups ne suffirait pas. Il fallait que les guerriers, eux aussi, frappent à mort. Le nombre des coups enregistrés par Crazy Horse était innombrable, au point même qu'il ne les comptait plus. S'il avait garni son bonnet de plumes d'aigle à chaque ennemi touché, l'homme aurait disparu sous sa parure. L'heure n'était guère propice pour songer aux honneurs. Soudain, dominant leurs paroles, ils perçurent le son lointain d'une fusillade, quelque part en amont, un peu comme les pétillements d'un feu dévorant du bois sec. Au-delà du cercle le plus éloigné des tipis, celui de la bande des Sioux Papa, ils virent monter les nuages de poussière que soulevèrent les sabots des chevaux. Très vite, Crazy Horse choisit quelques guerriers pour l'accompagner. En un instant, ils furent en selle. Crazy Horse dédaigna son bouclier et ne prit que son arc, son carquois garni de flèches, son casse-tête et sa carabine. À son cou, il suspendit son sifflet de guerre taillé dans l'os d'une plume d'aigle. Entraînant ses compagnons, il remonta au galop la vallée où se trouvaient installés les campements. Reconnu à son passage, il fut salué de cris finitirques. On hurlait son nom. « Crazy Horse ! Crazy Horse ! Crazy Horse !» À présent, il observait le déroulement de la bataille, là-bas, à un coup de la rivière. À pied ou à cheval, les guerriers esquivaient les coups. Ils opéraient à travers la vallée et gravissaient les hauteurs. La première slave avait dû être tirée alors que l'ennemi approchait des abris de feuillage disséminés le long de la rivière. Les agresseurs s'étaient arrêtés à portée de carabine du campement des Hung Papa. Les défenseurs des positions indiennes l'acclamèrent dès son arrivée. Ils pensaient qu'il allait les mener à l'assaut. Mais il se contenta de faire un geste puis de disparaître dans les frondaisons pour aller retrouver Black Moon et quelques autres chefs. Ils tinrent un rapide conseil de guerre tandis que des balles sifflaient au-dessus de leur tête. Black Moon avait assisté à l'attaque. Les Blancs avaient chargé, mais s'étaient arrêtés net lorsque les Indiens s'étaient portés à leur rencontre. Crazy Horse poussa son cheval jusqu'à une position d'où il voyait mieux la ligne de bataille. À cet instant précis, une chose étrange se produisit. Piquant droit vers les Indiens, un cheval sortit au galop de la ligne des soldats blancs. Certains parmi les Indiens crurent que ce cavalier faisait une démonstration aussi courageuse qu'insensée. Mais Crazy Horse comprit, en voyant ses yeux blancs, que la monture était affolée et qu'elle recevait son baptême du feu. Il aperçut aussi le cavalier angoissé qui essayait désespérément de reprendre son cheval en main. Crazy Horse talonna son poney et hurla pour le faire galoper. Tout en fonçant vers le transfuge involontaire, il se savait à portée de tir de nombreuses tuniques bleues. D'un coup de fouet, il amena sa monture flanc à flanc contre le cheval de l'adversaire, puis il balança d'un seul coup de son lourd casse-tête de guerre en pierre. Dans les yeux de l'ennemi, il eut de la stupeur, puis le sang jaillit. L'Indien poussa son poney plus loin, abandonnant à ses compagnons le soin de rattraper l'animal affolé, puis de dépouiller de ses armes et de ses munitions ce sac bleu désarticulé. À présent, il demandait à sa monture de décrire entre deux lignes de feu un trajet en zigzag. Cette périlleuse chevauchée lui permit d'étudier l'ennemi et de dénombrer ses forces. Les cavaliers, à genoux à terre, les hommes chargés des chevaux se réfugiant sur les arrières, chacun avec quatre montures en charge, et les éclaireurs gris, tellement haïs. En fait, l'ennemi battait en retraite, car Black Moon venait d'amorcer un mouvement sur son flanc. Crazy Horse fit soudain volte-face et se mit hors de portée du feu ennemi, puis, décrivant un large cercle, il atteignit le bosquet où quelques chefs l'attendaient. Gall, un des meneurs des Hung Papa, s'était joint à eux. Crazy Horse s'assit quelques secondes pour permettre à son cheval de reprendre son souffle et fixa son attention sur la bataille. À son avis, les soldats blancs étaient trop peu nombreux pour s'être lancés à l'attaque d'un campement aussi important. Peut-être avait-il des réserves quelque part. Cette escarmouche représentait sans doute une diversion. Les autres chefs furent de cet avis. Une chose semblait sûre. Ces soldats ne pouvaient tenir bien longtemps contre tant de guerriers. Pour le moment, les Indiens devaient se méfier et craindre une attaque venant d'une autre direction. Bientôt, les Blancs se mirent à courir, se repliant dans un premier temps vers la rivière où ils purent se mettre à l'abri parmi quelques saules rabougris et des buissons de merisiers. Le vent favorisait les Sioux. Ils allumèrent des feux dans des fétuques desséchées et les broussailles au ras du sol, détruisant la végétation haute et tissant un écran de fumée dans la vallée. Les herbes encore à demi vertes rendaient la fumée très dense. Elle était âpre et épicée, dégageant une forte odeur de sauge. Les Blancs rompirent le combat, reprirent leur monture et s'élancèrent en désordre vers la rivière et un mauvais gué qui menait aux pentes raides des berges et des collines orientales. Les Sioux les assaillirent et assommèrent quelques soldats au passage de la rivière, tout en faisant pleuvoir leurs flèches et leurs balles sur les montures qui battaient en retraite, gravissant la pente pour prendre une position défensive. Les fuyards abandonnèrent sur le terrain au moins une trentaine de mourants et de morts. Parmi eux, les Sioux reconnurent deux de leurs ennemis qui n'auraient plus jamais à combattre. Il y avait là Bloody Knife, un éclaireur gris, et Charles Reynolds, le solitaire, un éclaireur au visage pâle. Parmi les morts, on comptait aussi un homme à la peau très noire, aux cheveux crépus, comme ceux qu'avaient dans les plaines du Sud ces combattants que les Indiens surnommaient « soldats bisons ». Retenant bon nombre de ces guerriers au Galala, Crazy Horse attendait, tout en consultant les autres meneurs et en échangeant des messages avec les campements. Sa patience et sa méfiance se trouvèrent récompensées. Des éclaireurs postés à l'est de la rivière firent savoir, grâce à des signaux de couverture et de miroir, que des forces de soldats blancs progressaient en formation de combat vers le nord, au-delà de la crête. Gall battit alors en retraite, ne laissant sur place que le nombre d'hommes nécessaires pour immobiliser les cavaliers postés sur une colline à l'est de la rivière. Crazy Horse redescendait la vallée avec Gall. Les guerriers de son compagnon galopaient le long de la rivière jusqu'en amont, entre les forces principales de l'adversaire et les campements indiens, puis franchiraient le sombre cours d'eau avant que les Blancs ne pussent l'attaquer. Pendant ce temps, Crazy Horse traverserait les campements, rassemblant au passage le plus grand nombre possible de guerriers, et passant derrière les tuniques bleues, il les prendrait à revers. Forçant son poney épuisé, il parcourut la zone des tipis sur une distance de 4 km. À grand renfort de gestes, il incitait tous les guerriers à le suivre. Le temps pour lui d'atteindre son propre campement, il avait derrière lui une véritable horde qui poussait de grands cris de guerre. Black Slove avait préparé son second cheval de combat, une monture baie. L'instant d'après, Crazy Horse repartait. Il était temps de lancer le traditionnel appel à la bataille qui se pousse en brandissant le fusil. On criait « Hokae ! Hokae, Lakota ! C'est un bon jour pour mourir ! Hokae ! C'est un bon jour pour mourir !» Eh oui, c'était un bon jour pour mourir, mais nous assisterons une prochaine fois à la fin de cette bataille de Little Bighorn. C'est donc fini pour aujourd'hui. Je vais dire un grand merci à Nico qui toutouillait les boutons derrière la vitre. Et à vous, jeudi comme d'habitude. À la prochaine fois, même endroit, même heure.